Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie du vendredi où je reçois comme chaque semaine un philosophe contemporain qui vient vous faire part de ses travaux en cours. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Maurizio Ferraris, qui est professeur de philosophie à l'université de Turin et qui, de passage à Paris, est venu passer une petite heure en notre compagnie pour nous parler de l'imbécilité, le sujet de son dernier livre, mais aussi de téléphone portable, de Turin et de nouveau réalisme, la voie de sortie la plus fiable hors de la postmodernité, si on l'en croit.
Quand on se demande ce qui peut pousser un être humain à écrire un livre sur l'imbécilité, il faut se garder de donner la réponse la plus évidente, quand bien même elle n'est pas nécessairement fausse. Certes, il y a l'attraction fatale et homéopathique du semblable, mais il ne s'agit pas seulement de ça. Cela ne fait aucun doute. Il y a la tentation de ce qui est relativement insolite, le sentiment du contraire. Le professeur de philosophie devrait s'occuper de raison pure et d'amender l'intellect, si bien que la tentation de l'imbécilité serait l'analogue de la tentation de la prose qui parfois séduit les poètes et certains philosophes.
Bonjour Maurizio Ferraris.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci de l'invitation.
C'est un plaisir de vous y accueillir à l'occasion de la parution de votre dernier livre « L'imbécilité est une chose sérieuse » qu'on trouve aux presses universitaires de France, qui est paru fin août, dans notre pays en tout cas. Vous êtes aussi l'auteur d'autres ouvrages, « Mobilisation totale »,« Manifeste du nouveau réalisme »,« Âme et iPad ». On y reviendra. Goodbye Kant, ce qu'il reste aujourd'hui de la critique de la raison pure. Et T.O., ontologie du téléphone mobile. Quand on lit votre bibliographie, entre l'âme et l'iPad, le téléphone mobile et Kant, ainsi que le nouveau réalisme, on a vraiment l'impression que finalement, en philosophie, vous explorez toutes les voies possibles.
En même temps, on dirait que je ne répète qu'une seule chose. Donc, j'ai, comme Jacobson disait qu'il parlait russe en 17 langues, je pourrais dire que je déploie une idée fondamentale dans plusieurs endroits. L'idée fondamentale, c'est celle-ci. Il ne faut pas penser qu'il y a un en soi de l'être humain. Libre, indépendant, avec de l'esprit, des intentions. Mais il y a plutôt un manque qui constitue l'être humain et la tentative de remplir cette manque avec la technique. La technique, elle n'est pas la voie d'aliénation de l'être humain. Moi, ma génération est, moi, j'ai plus que 60 ans. Et il y avait toute la critique de l'aliénation industrielle, du consumérisme, de la société de consommation, des obsessions de biens, etc. Et je suis demandé, mais écoutez, qu'est-ce que serait un être humain sans les biens de consommation et sans les techniques? Si, surtout, on considère que les techniques sont lire et écrire, sont des techniques très importantes, sans lesquelles il n'y aurait ni philosophie, ni mathématiques, ni société, peut-être même des relations amoureuses qui, comme on sait très bien, ont beaucoup à faire avec l'écriture.
Donc, ce que vous dites, c'est ce qui vous intéresse dans la technique, c'est la manière qu'elle a de venir s'immiscer dans ce manque qui constitue l'être humain, et donc elle n'est ni une aliénation, ni même forcément une aide à vivre, mais elle est là, ça c'est un fait, et la tâche du philosophe, dites-vous, est celle qui consiste à essayer d'observer de quelle manière eh bien, l'homme compose avec elle, c'est une tâche d'observation.
Oui, d'observation et même pas, peut-être, si on est présomptueux, de suggestions, si on peut donner des conseils, d'abord à soi-même, faut expérimenter, et puis si ça marche, aux autres. C'est pour ça que normalement je ne donne jamais de conseils, mais l'idée au fond, c'est que, disons, la philosophie a traditionnellement deux grandes branches, l'ontologie et l'épistémologie. L'ontologie, c'est ce qu'il y a. Et l'épistémologie est ce qu'on sait à propos de ce qu'il y a. Mais justement, manque un troisième royaume, que c'est celui que je travaille d'habitude, que c'est la technologie comme ce qu'on fait et ce qui permet de passer de ce qu'il y a à ce qu'on sait. C'est-à-dire, pourquoi j'ai critiqué Kant, par exemple, ce grand homme, grand philosophe? Bon, je l'ai critiqué simplement pour ceci, que lorsqu'il dit que si on n'a pas de concepts, alors on ne peut pas avoir de rapport au monde. Les intuitions sans concept sont aveugles. Il faut nécessairement avoir des schémas conceptuels pour
obtenir une connaissance du monde.
Mais pour avoir aussi un rapport du monde, pas seulement une connaissance. S'il disait seulement la connaissance, ce serait bien, mais il est plus ambitieux. Il dit que sa critique de la raison pure va prendre la place de l'ontologie, donc vraiment de ce qu'il y a. Eh bien, on dit, bon, écoutez, pour si une pierre me tombe sur la tête, je n'ai pas besoin d'avoir le concept de pierre pour avoir des désavantages, disons, pour être un peu elliptique. Alors, l'idée que les intuitions sans concept sont aveugles s'applique très bien à la réalité sociale. Moi, je fais toujours cet exemple en classe. Lorsqu'on regarde un film américain, dans le film américain, il y a un match de football américain. C'est un jeu extrêmement compliqué, on ne comprend pas, plus encore le baseball, par exemple. Et on se demande, bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils courent, pourquoi ils s'arrêtent, comme ça. Là, on dirait que dans le monde social, les intuitions sans concept sont aveugles. Mais je peux voir cette table que j'ai devant moi sans besoin d'avoir des concepts. Alors, se pose la question de la technique. Comment ça se fait que, malgré on n'a pas tellement de concepts, on peut interagir dans le monde? Mais c'est justement avec des techniques, c'est-à-dire des actes, des compétences qu'on a, sans nécessairement de la compréhension. C'est-à-dire, je peux aller en bicyclette sans avoir des notions de physique et de statique. Et en plus, si j'avais cette notion, pas nécessairement mon aller en bicyclette serait mieux. Je manie l'argent sans avoir des théories économiques, mais je peux manier, payer, recevoir. Mais voilà.
Alors, Maurizio Ferrari, est-ce que votre adversaire, nommons-le ainsi, après vous pourrez nuancer, mais pour vous avoir lu, j'ai quand même l'impression que si on peut parler d'adversaire, est-ce vraiment Kant qui, selon vous, pense que le concept est nécessaire à tout rapport au monde, même s'il y a quand même chez Kant un usage directement pratique de la raison pure qui ne passe pas par le concept, il ne faut pas le passer sous silence, ou est-ce que ce sont plutôt ce qu'on appelle les postmodernistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que tout objet de la réalité, même la réalité elle-même, n'est que le fruit d'une construction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas faire l'expérience des choses sans passer par une construction intellectuelle préalable.
Alors, justement, évidemment, ce sont les postmodernistes, mais disons, le pauvre Kant était très sage, mais lui, il a senti la nécessité, dans la deuxième édition de la critique de raison pure, d'ajouter une confutation de l'idéalisme, puisqu'il voyait très bien l'usage idéaliste qu'on pouvait faire de sa pensée, ce qui s'est vérifié non seulement dans l'idéalisme, mais, disons, d'une façon croissante, avec Nietzsche qui dit « il n'y a pas de fait, seulement de des interprétations », qui est, si vous voulez, une version extra-strong de « les intuitions sans concept sont aveugles », c'est-à-dire « ce que nous pensons, c'est l'origine de ce qu'il y a ». Et alors, c'est trop, mais d'ici jusqu'au postmoderne. Voilà, le parcours, c'est un peu ceci. Et en plus, je voudrais dire, en fait, si je m'acharne contre le postmoderne, c'est pour critiquer, au fond, moi-même, puisque au tout début de mes travaux, j'étais persuadé que le postmodernisme était une bonne voie, puisqu'on disait que si on comprend que la réalité elle est construite socialement, alors on peut même la déconstruire socialement et donc avoir des effets d'émancipation. Ce que, en principe, était très bien. Seulement, ce qui s'est avéré est très différent. C'est-à-dire, venant de la nation de Berlusconi, j'ai pu vérifier à partir des années 90 que le principe « il n'y a pas de fait, seulement des interprétations » peut peut être aisément traduit dans le principe « la raison des plus forts est toujours la meilleure ». Donc, on ne voit pas l'effet d'émancipation qui était conçu par les postmodernes. Et je crois qu'ils l'ont fait en bonne foi. Là, c'est très important.
Ouais, parce que vous allez même plus loin. Vous voulez en finir avec une manière de voir la réalité comme un fait social qui serait sans cesse construit et déconstruit par l'histoire. Vous dites que finalement, adopter cette perspective postmoderniste, c'est-à-dire concevoir la réalité comme un fait social, comme une construction, a conduit la philosophie, enfin plutôt les philosophes, vers une forme de populisme, dites-vous. Et vous allez même encore plus loin, vous rajoutez encore une forme d'accusation, vous dites que les postmodernistes ont ouvert la voie à une falsification du monde. Et qu'en clair, ce qui s'est passé cette année, notamment dans l'administration de Donald Trump, dire que voilà, this is alternative facts, c'est une vérité, ce sont des faits alternatifs. Tout cela est le résultat, finalement, de ce qu'on a appelé le postmodernisme, que vous datez donc, dont vous datez l'origine, finalement, chez Kant, quasiment, si je vous suis bien.
Oui. Alors, évidemment, on dit, mais écoute, est-ce que tu veux dire que Trump a lu Kant pour faire des vérités alternatives? Non. Il n'a, probablement, je crois qu'il n'a lu Kant. Mais ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, cette dame porte-parole de Trump qui a parlé
Kayleigh Conway.
Qui a parlé de faits alternatifs, probablement a fait ses études dans une université américaine où des professeurs postmodernes lui ont dit que il faut admettre, par exemple, qu'il y a deux versions de l'origine des natives amérindiennes. L'une, qu'ils sont venus de Sibérie, comme disent les savants, et l'autre, qui est celle native des Amérindiens, qui sont sortis de la terre à un moment donné. Donc, pour ne pas être phallogocentriste, machiste, eurocentrique, colonialiste, il faut admettre les deux type de faits. Le fait qu'ils sont venus de Sibérie et le fait qu'ils sont montés de la terre. Et là, évidemment, on voit le principe émancipatif, c'est-à-dire il faut ne pas être coloniaux et reconnaître aussi les raisons des autres, etc. Mais imaginez ce principe transposé en politique. Ça devient vraiment... Imaginez, il n'y a pas de fait, seulement des interprétations dans un tribunal. Tu entres dans un tribunal et tu vois écrit, il n'y a pas de fait, seulement des interprétations. C'est kafkien. Surtout si tu es innocent, ce n'est pas rassurant. Alors, ce qui se passait entre postmodernisme et populisme et puis post-vérité, ça a été une espèce de, disons, massification, si on peut dire, d'une théorie philosophique. C'est toujours comme ça. Lorsque Théophile Gautier et Baudelaire se trouvaient sur l'île de Saint-Louis, ils y fumaient hachiche, c'était pittoresque, aventureux, bizarre et noble. Lorsque ça devient un problème de masse, il faut faire des lois, il faut s'organiser, etc. En plus, il y a le risque que qui conduit ton avion s'est porté comme Théophile Gautier, donc qui sait. Et voilà. Même chose pour ce passage. C'est-à-dire, si tu es un professeur américain, libéral, avec des collègues américains très cultivés, et tu dis, comme le faisait Richard Rorty, ce grand postmoderniste, bon, au fond, la vérité n'est pas importante, c'est plus important la solidarité. Les gens vont te comprendre, c'est-à-dire, ils ont été éduqués au culte et parfois à l'obsession de la vérité, et tu dois leur dire, écoutez, mais n'exagérez pas un peu avec cette obsession de la vérité, et en plus, on a des problèmes de solidarité sociale. Mais imaginez ce principe, cet adieu à la vérité, dit par Vito Corleone, par exemple. Au fond, la mafia, c'est un exemple insigne de prévalence de la solidarité sur l'objectivité. Est-ce que il s'agit d'un idéal social désirable? Je crois que non. Donc, c'est un peu, disons, ce passage inaperçu, disons, du séminaire à la société. Mm-hmm. Et ce qui, peut-être Platon n'était pas si sot d'avoir des doctrines exotériques et des doctrines ésotériques. Il faut tenir, puisque des principes qu'on peut se dire dans un domaine, je ne dirais pas secret, mais disons entre nous, pas vous et moi, peut-être, qui sait, c'est-à-dire entre nous, ça vaut à la radio, c'est mystérieux.
Oui, il y a beaucoup d'auditeurs aussi.
Oui, justement.
Vous êtes écoutés.
Alors, c'est qu'on peut dire, on peut dire dans un contexte académique, vous voyez, il ne faut pas être obsédé par la vérité. Mais si tu es dans un parlement ou dans un tribunal, ça change beaucoup.
Alors, ce que vous voulez dire, Maurizio Ferrari, c'est qu'en réalité, dans un cadre, vous dites universitaire, mais même intellectuel, au sens plus large du terme, le doute a des vertus qu'il faut enseigner, mais l'erreur serait d'élargir ce doute dans tous les domaines de l'existence, parce que ça rend la vie proprement impraticable. Vous prenez l'existence de la justice, c'est pareil.
C'est justement...
Mais alors, du coup, où est la vérité? Est-ce que vous pouvez à la fois mesurer le doute pour éviter une déconstruction générale de toute forme de réalité, sans pour autant reconduire une idéologie de la vérité en disant « il y en a une, c'est celle-ci, je la pointe », ce qui du coup ne ferait que reconduire le même problème. C'est à chaque fois qu'on érige la vérité que le doute se multiplie.
Non, vous avez raison. Pour ce qui en est du doute, puisque c'est très important, il faut remarquer ceci, que... Par exemple, il y a cette image un peu caricaturale de Descartes qui veut douter de tout. Il dit, une fois dans la vie, on va faire l'exercice de douter, de tout douter. Et pour le reste de l'existence, on ne doute de rien puisque c'est peu pratique. Alors, il y a toujours ce passage. Ce qui est une expérience absolue et rare se transforme en une forme de vie. En plus, vous avez raison. Et qu'est-ce que tu dis? Alors, c'est plus vrai ta vérité si tu critiques les autres vérités? Non, je trouve qu'il y a quelque chose de très important dans la théorie postmoderne de la vérité, et même la post-vérité peut nous apprendre quelque chose. C'est-à-dire, la vérité, c'est quelque chose qu'on fait. Mais il faut être c'est-à-dire, il n'y a pas de vérité en nature. Mm-hmm. En nature, il y a la réalité. Il y a la neige, il y a les arbres, etc. Puis, il y a des jugements vrais qu'on porte sur ce qu'il y a.
Alors, la vérité dans les jugements.
Oui.
Pas dans les faits.
Non, pas dans les faits.
La réalité est réelle, elle est, alors que la vérité dans le jugement que l'on porte
sur cette
réalité, c'est ça.
Est-ce que on peut dire que le sel était chlorure de sodium à l'époque d'Homère? Alors, si on se réfère à l'époque d'Homère, on peut dire, nous, maintenant, disons qu'à son époque, le sel était chlorure de sode. Mais le sel avait ces mêmes propriétés, même si personne ne savait qu'il était chlorure de sode. Et les dinosaures ont vécu très bien sans savoir qu'ils étaient des dinosaures.
Alors, on va écouter une voix qui vous est chère, je crois, Maurizio Ferraris, une voix, la voix d'un philosophe, envers qui vous dites avoir une dette. C'est un philosophe qui a beaucoup contribué à déconstruire justement l'idée de vérité, l'idée même sans doute de réalité. Et dans cet extrait, vous verrez, il y a beaucoup question de fantômes. Alors peut-être qu'à force de tout vouloir déconstruire, eh bien le risque, c'est que la réalité elle-même devienne fantomatique. Et puis ensuite, un autre son, une chanson cette fois, choisie par vos soins. Vous nous direz pourquoi juste après.
Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez aux fantômes?
Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit au fantôme? Ici, le fantôme, c'est moi. Dès lors qu'on me demande de jouer mon propre rôle dans un scénario filmique plus ou moins improvisé, j'ai l'impression de laisser parler un fantôme à ma place. Paradoxalement, au lieu de jouer mon propre rôle, je laisse, à mon insu, un fantôme me ventriloquer, c'est-à-dire parler à ma place. Et c'est ça qui est peut-être le plus amusant. Le cinéma est un art de fantomachie, si vous voulez. Et je crois que le cinéma, quand on ne s'y ennuie pas, c'est ça. C'est un art de laisser revenir les fantômes. Alors c'est ce que nous faisons ici. Donc si je suis un fantôme, c'est-à-dire si actuellement, croyant parler de ma voix, précisément parce que je crois parler de ma voix, je la laisse parasiter par la voix de l'autre, pas de n'importe quel autre, mais de mes propres fantômes, si on peut dire, à ce moment-là, il y a des fantômes. Et ce sont eux qui vont vous répondre, qui vous ont peut-être déjà répondu.
Ce fantôme, c'est Derrida sur France Culture, et voici un autre fantôme. Est-il fantôme, vous nous direz, Maurizio Ferraris. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas philosophe, qui a beaucoup compté dans votre formation philosophique, Leonard Cohen.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's this lobby with 900 windows. There's a tree where the doves love to die. There's a piece torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz with the clamp on its jaws.
Et oui, prenez la valse en volant, en dansant sur France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi où je reçois aujourd'hui le philosophe italien Maurizio Ferraris, professeur de philosophie à Turin, auteur d'un manifeste du nouveau réalisme, de mobilisation totale et de son dernier livre sur l'imbécilité qui est paru au PUF en août dernier. L'imbécilité est une chose sérieuse. Nous avons écouté sur vos suggestions, Maurizio Ferraris, enfin en lisant vos ouvrages, on se dit que ça tombait bien. Derrida, puis Leonard Cohen, que nous sommes en train d'écouter. S'il vous plaît, commençons par Leonard Cohen. Pourquoi cette chanson ?
Parce que, d'un côté, je trouve que Leonard Cohen est l'exemple de quelqu'un qui a fait de la culture haute et basse en même temps. Et là, je crois que ça doit être un idéal aussi pour les philosophes, s'il y arrive, évidemment, puisque souvent on a l'idée que le philosophe se baisse en disant quelque chose qui regarde tout le monde.
Se met à la hauteur du public, on dit. Hein.
Oui, exactement. Et là où être à la hauteur d'un public, c'est pas facile. Il est arrivé justement à Derrida, par exemple, une fois de donner un concert, une conférence avant un concert de jazz, et les gens l'ont sifflé parce qu'ils s'imaginaient qu'il devait y avoir le concert. Ça s'est passé, et il était Derrida, donc c'est compliqué. De l'autre côté, le texte, il est très beau, mais j'étais fier parce que j'entendais ce texte, et tiens, mais on dit le poète, mais il est vraiment un poète. Et puis j'ai découvert que c'était Garcia Lorca.
Alors écoutons-le.
There's an attic where children all play, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz.
Vous nous apprenez, Maurizio Ferraris, que le texte de cette chanson, Take This Waltz de Leonard Cohen, est une traduction de Garcia Lorca, donc, qui a eu quel écho? Alors, est-ce que c'est une invitation à ne pas reproduire une forme de snobisme en philosophie en pensant qu'il y a d'un côté une haute culture et une basse culture?
Oui, justement, il y a parfois la tentation de dire que la philosophie, maintenant, la bonne philosophie est, on dit, intraparadigmatique. Mmh. Et ce intraparadigmatique veut dire qu'il y a 5 personnes qui comprennent ce qui ont écrit autres 5 personnes et ça finit là. Alors, je trouve que ça, c'est bon pour la thérapie du cancer. Je trouve que il faut être très spécialiste pour faire des choses comme ça. Je peux admettre ne rien comprendre de la thérapie du cancer, pourvu que ça marche. Mais ça ne s'applique pas à la philosophie. C'est-à-dire, la philosophie a eu toujours une dimension publique. Alors évidemment, on peut dire, mais écoute, alors aller à la radio à dire n'importe quoi. Bon, effectivement, j'essaie de ne pas dire n'importe quoi, et surtout...
À la radio comme ailleurs, j'imagine.
Oui,
d'ailleurs.
Oui, justement. Et j'imagine en plus que si je disais n'importe quoi, je serais chassé de la radio. Ce qui veut dire qu'il y a en plus ce préjugé selon lequel on est sérieux seulement dans le séminaire et le reste n'est pas sérieux. Moi, j'ai le sentiment que, et c'est un des avantages du séminaire, on peut être moins sérieux dans le séminaire que hors du séminaire, puisque c'est normalement hors du séminaire que se décide la vie.
Et quand Derrida dit dans le documentaire qu'on a entendu, Ghost Dance, qu'il est un fantôme, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux, là?
Il faut le prendre terriblement au sérieux, parce que maintenant, il est un fantôme. Et déjà, il savait, comme nous tous le savons, qu'il serait devenu un fantôme, et cette idée...
Il dit que le fait même d'être à l'image, sur un écran, d'être filmé, fait de lui un fantôme.
Oui, et en plus, cette dame, Pascale Augier, qui dialogue avec lui, elle est morte à 24 ans, l'année après... ce film.
C'est un documentaire de Ken MacMillan qui date de 1983.
Et donc, c'est impressionnant. Et je dis ceci aussi parce que dans un écrit successif, Derrida fait référence à ce cas. Et là, nous dit l'importance de l'enregistrement et de l'écriture. Pourquoi Derrida portait tellement l'attention sur l'écriture? Puisqu'il y a cette dimension testamentaire de l'écriture. Au fond, l'écriture, c'est ce qu'il nous survit. Et comme écriture, ça veut dire quelque chose qui peut être répété d'une façon indéfinie. Même cette image peut être répétée d'une façon indéfinie. Lorsque, dans cette scène, il y a encore un passage, on peut le trouver sur YouTube. Comme ça, on peut voir aussi les images et tout cela. Il y a un moment où Derrida reçoit un coup de téléphone, il répond.
En anglais.
En anglais, puisqu'il y a quelqu'un qui demande les horaires de ses séminaires. Et puis, il fait référence à cette très belle lettre de Kafka à Milena, où il dit que l'avenir appartient aux fantômes, puisque tous ces instruments, et il parle surtout du téléphone, ne font qu'augmenter les fantômes. Pourquoi? Parce que ils apportent nos traces, nos voix, par-delà de nous, et font ainsi que se forme lorsque la voix est enregistrée. Et notre voix, par exemple, est enregistrée. Une fois, la radio, c'était verbavolante, mais maintenant, en streaming, tout se peut se répéter.
Télécharger, réécouter.
Réécouter, donc. Et donc, si vous voulez, on est nous-mêmes en train de devenir des fantômes, c'est-à-dire de laisser des traces qui pourront être...
C'est cette question des traces qui vous intéresse beaucoup, n'est-ce pas? Le rapport à la mémoire et à l'oubli.
Oui, justement. Pourquoi la grande technologie a été celle maintenant était celle des ordinateurs et puis des portables, puisque ce sont de grandes machines à enregistrer qui gardent les traces. C'est-à-dire, vous savez, il y a ce cas intéressant. Il y a un acteur américain dont j'oublie toujours le nom, qui s'est fait enterrer avec son portable. Et Tony Curtis. Et c'était un iPhone 3. Alors, on peut se demander pourquoi. Parce que probablement, là où il était, il n'y avait pas de champ. En plus, il était mort. Donc, il y avait pas mal de raisons pour l'inutilité de se faire enterrer avec son portable. Mais comme c'était un archive, il y avait toutes les photos, tous les contacts, toutes les correspondances de sa vie. C'était comme le pharaon qui apportait avec soi tout ce qu'il regardait. Donc, si vous voulez, il se fait enterrer avec ses propres fantômes.
Vous dites, vous avez cette formule très, très belle, la technologie rapproche l'homme de ses défauts. Finalement, c'est ça que vous dites quand, dans vos réflexions sur le téléphone et le téléphone portable. Voici un texte d'un auteur qui pense pas le téléphone portable, mais le téléphone, et qui semble vous donner raison dans un registre complètement différent. Écoutez, c'est Marcel Proust dans La recherche du temps perdu.
Un matin, Saint-Loup m'avoua qu'il avait écrit à ma grand-mère pour lui donner de mes nouvelles et lui suggérer l'idée, puisqu'un service téléphonique fonctionnait entre Doncières et Paris, de causer avec moi. Bref, le même jour, elle devait me faire appeler à l'appareil et il me conseilla d'être vers 4h-15 à la poste. Le téléphone n'était pas encore à cette époque d'un usage aussi courant qu'aujourd'hui. Et pourtant, l'habitude met si peu de temps à dépouiller de leur mystère les forces sacrées avec lesquelles nous sommes en contact, que n'ayant pas eu ma communication immédiatement, la seule pensée que j'eus, ce fut que c'était bien long, bien incommode, et presque l'intention d'adresser une plainte. Comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez rapide à mon gré, dans ces brusques changements, l'admirable féerie à laquelle quelques instants suffisent pour qu'apparaisse près de nous, invisible mais présent, l'être à qui nous voulions parler, et qui, restant à sa table, dans la ville qu'il habite, pour ma grand-mère, c'était Paris, sous un ciel différent du nôtre, par un temps qui n'est pas forcément le même, au milieu de circonstances et de préoccupations que nous ignorons et que cet être va nous dire, se trouve tout à coup transporté à ces centaines de lieues, lui et toute l'ambiance où il reste plongé, près de notre oreille, au moment où notre caprice l'a ordonné.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, et un extrait de La Recherche du Temps Perdu du côté de Guermantes, exactement, interprété par la comédienne Anne Brissier. Pour éclairer votre travail, Maurizio Ferraris, hein, vous dites que c'est à la lecture de Proust que vous devez l'importance de la mémoire, de l'écriture et des documents qui ont marqué tout votre travail de philosophe, y compris dans des textes qui paraissent secondaires, comme celui de l'ontologie du téléphone mobile que vous avez écrit.
Oui, mais on vient d'écouter que même Proust était en train d'esquisser une ontologie du téléphone fixe, très fixe, si on veut réfléchir à l'époque, il fallait aller au bureau de poste pour téléphoner. Et c'est du bien que les téléphones étaient si compliqués pour un obsessionnel comme Proust, puisque imaginez si jamais Albertine existait à l'époque des portables. Alors toujours Proust...
Il serait devenu encore plus fou.
Ça, essaie de chercher Albertine. Alors votre correspondant n'est pas atteignable à ce moment. Alors crise de folie, etc., etc. Donc tant mieux. Déjà, il y a une scène où il cherche...
Et il s'arrête d'ailleurs. Ouais, il commence à trouver des papiers dans la poche de son kimono, je crois, ouais. Et il arrive à ne pas regarder, donc on peut s'imaginer qu'avec un téléphone portable en main, il aurait peut-être réussi à ne pas regarder les SMS.
Ah oui, absolument, tous les textos d'Albertine, c'est clair. Donc, mais à part cela, oui, pourquoi la mémoire est importante? Ben, banalement, puisque on est ce qu'on est à partir des mémoires qu'on a. C'est-à-dire, si on demandait à quelqu'un, est-ce que tu as le choix entre être exécuté ou perdre ta mémoire? Au fond, ce serait plus ou moins la même chose. Évidemment, je crois qu'il essaierait de perdre la mémoire, dans l'espoir que après il va la récupérer, je crois, tandis que l'exécution elle est définitive. Mais les deux choses vont de près. C'est à peu près la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que très tôt, justement, la technologie est venue remplir les besoins de la mémoire. Puisque souvent, lorsqu'on parle de technologie, on imagine les avions ou, par exemple, la plastique. La plastique, elle est technologique. C'est un peu naïf, puisque, au fond, la technologie, c'est une forme de garder la mémoire, c'est-à-dire garder la mémoire dans l'écriture, garder la mémoire dans les archives. Ce sont toujours... La grande invention technologique a été l'écriture. C'est ça qui a changé. Et il y a d'autres technologies qui ont faire avec la mémoire. Imaginez cette évolution des gens qui ont fabriqué des outils de plus en plus sophistiqués de pierre pendant 10 000 ans. Et on voit, c'est toujours plus parfait, mais c'est justement cette perfection technique, c'était obtenue à travers une forme de mémoire qui s'est gardée. Chaque génération enseignait à la suivante la technique et la technique se perfectionnait. Et on sait très bien que s'il y a un coupou, on recommence à nouveau.
Donc, Dans votre dernier livre, vous parlez de l'imbécilité. L'imbécilité est une chose sérieuse. C'est le titre du livre qui est paru aux Presses universitaires de France il y a quelques jours. Vous essayez de définir l'imbécilité. Alors, Je vous propose, on a parlé de Derrida, de Leonard Cohen, de Proust. Il manque peut-être au moins une personne à qui vous devez beaucoup de choses et qui elle-même a sa définition de l'imbécilité, de la bêtise ou de la connerie selon les traductions. C'est Umberto Eco, oui. Écoutez.
Ce petite note que j'oserais dire de voyage qu'il m'arrive de prendre à travers mes expériences à travers le monde ne concerne pas la modernité en tant que telle, mais la stupidité, la sottise de la modernité. Puisque la sottise, c'est un don universel, il y avait des sottises aussi dans les autres siècles. Il y a des almanachs d'invention du 19e qui auraient pu permettre des divertissements du même genre. Vous savez, je choisis une espèce de principe dans ma vie qui me permet de ne pas devenir fou. Lorsque le plombier se trompe ou le directeur de banque commet une faute, je me dis, bon, s'il était intelligent, il serait professeur de sémiotique à l'université de Bologne. Avec cette espèce de fatalisme, cette acceptation du taux de bêtises normales dans le monde, vous pourriez vivre tranquille, mais vous avez le droit moral de dénoncer la bêtise aux autres.
Alors en Italie, sans doute pour penser la bêtise, vous avez la chance d'avoir Umberto Eco. Ici en France, quand on pense à ceux qui sont bêtes, aux imbéciles, on parle des cons et on pense à Audiard.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Adjoint Le Gray, vous n'êtes pas outrecuidant, vous êtes con comme un adjoint. Notez bien que c'est normal. Si vous étiez une lumière, vous ne seriez pas adjoint, vous seriez inspecteur.
Arsène, vous êtes un con.
Ah oui ?
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Vous savez quelle différence y a entre un con et un voleur ?
Non.
Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
Pensez que l'enquête serait faite par un imbécile, manque de chance, tombez sur moi.
Où avez-vous appris à dire autant de conneries ?
2 ans de télé.
Alors là, excuse-moi, mais dans la connerie, c'est pas pour me vanter. Entre Fouanard et moi...
Il y a des aristocrates et des parvenus, dans la connerie comme dans le reste.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
Merci à Olivier Bétard qui a concocté ce medley spécial con de chez Audiard, Maurizio Ferraris. Alors bon, là, les cons chez Audiard, c'est difficile à définir, on voit immédiatement ce que c'est. Hein. Les cons, c'est, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, c'est la citation qui vient en premier quand on y pense. À quelle définition de l'imbécilité souscrivez-vous ? L'évidence à la Audiard ou bien l'imbécilité comme synonyme de bêtise qui est en fait un symptôme contemporain, une définition plus intellectuelle qui serait celle d'Umberto Eco ? Vous qui voulez réconcilier les hautes cultures et basses cultures.
Moi je dirais que ni l'une ni l'autre, ce n'est pas une critique, mais en plus, par exemple, dans La pendule de Foucault, il y a une page où Eco fait des distinctions très subtiles entre con, imbécile, mm-hmm. stupide, crétin, et c'est compliqué, non seulement parce que ça change assez les nuances d'une langue à l'autre, mais en plus, parce que peut-être je suis trop imbécile pour faire des distinctions si subtiles. Donc, je voudrais dire, l'imbécilité, c'est le propre de l'homme. Donc, je serais un peu plus radical que Eco en disant, malheureusement, on ne peut pas se consoler du plombier ou du directeur de banque, puisque le directeur de banque et le plombier peuvent se consoler du professeur. C'est-à-dire, s'il était intelligent, il ferait le plombier. S'il était intelligent, il fait le professeur, puisque, au fond... J'espère que les professeurs sont mieux que les imbéciles, mais j'ai des évidences et même, je veux dire, introspection de l'imbécilité mienne et des autres. Il y a des coups d'imbécilité. Donc, la thèse, c'est celle-ci, selon moi.
Mais comment vous la définissez, l'imbécilité?
Justement, ce manque. Je reviens à l'étymologie. Imbécile, c'est imbaculum, sans bâton, c'est-à-dire l'homme à son naturel, sans instrument, sans technique, c'est-à-dire dépourvu de tout et donc imbécile. Imaginez le début de 2001 Odyssée de l'espace, il y a le singe qui prend un bâton et ça commence la technique, et puis c'est le bateau...
Le vaisseau spatial.
Ouais, vaisseau spatial, etc. Mais... En effet, c'est comme ça. Tout ce qu'on a fait, on pourrait dire que la culture, c'est une longue fuite, une fuite sans fin de l'imbécilité. On fuit de sa propre imbécilité en essayant de nous améliorer, d'inventer des maisons, des habits, des armes, des choses. Le problème, c'est que, en même temps, la technique nous abrite, nous protège, mais nous révèle. Et par exemple, dans les social networks,
les
réseaux sociaux, justement, dans les réseaux sociaux, on dit pas mal d'imbécilité, mais là aussi.
Mais pas plus qu'ailleurs.
Pas plus qu'ailleurs, non, mais je faisais référence à ce que disait Umberto Eco, puisque Umberto Eco a été à la base de cette polémique bizarre. Quelques mois avant sa mort, c'est-à-dire on lui a donné une honoris causa à Turin. Il a fait un discours très beau, très chic, très élevé et très amusant, comme il arrivait toujours. Et puis après, le discours comme ça, en parlant avec des journalistes, en répondant vite, il a dit « Bon, qu'est-ce que vous pensez du web ?» Le web, c'est bien, mais vous savez, on y trouve des choses très intelligentes, mais aussi donne droit de parole à des légendes imbéciles. On n'a parlé que de ces syntagmes, légendes imbéciles, tout est disparu, le discours, le colloque, l'honoris causa, il n'y avait que les légendes d'imbéciles. Or, pour revenir à la question des légendes d'imbéciles...
Ce qui lui donnait raison d'ailleurs,
oui,
si c'est tout ce qu'on a retenu de cette histoire,
oui,
dans les réseaux sociaux,
oui,
ça donnait raison à ses propos.
Oui, justement, et en plus avec, disons, une certaine mauvaise conscience, est-ce qu'il parle de moi, est-ce qu'il fait référence à moi. Donc, mais le point c'est que, justement... ce type avait les réseaux sociaux sont simplement la manifestation technique d'une imbécilité que autrement demeurerait cachée. Donc, il n'est pas vrai qu'on a plus d'imbéciles maintenant qu'autrefois. Simplement,
on
autrefois,
les voit plus.
Oui, justement.
Vous dites la technique, quelle qu'elle soit, ne nous aliène pas ni ne nous rend stupides. Simplement, elle potentialise vertigineusement les occasions de nous faire connaître pour ce que nous sommes. Plus présente est la technologie, plus grande est l'imbécilité perçue.
Oui, il y a l'imbécilité perçue comme la chaleur perçue, le froid perçu, c'est-à-dire même à l'époque de Lascaux, il y avait des imbéciles, je crois, néolithiques, on avait sans doute des imbéciles, mais ils ne laissaient pas de traces. Et paradoxalement, on n'a plus de signes d'imbécilité d'élite, puisque l'élite ont été témoignées, ont laissé des traces, ont écrit des livres, et alors il y a ces merveilleux livres de Joseph de Maistre qui prend la philosophie de Bacon et transforme le héros des Lumières dans un imbécile, dans quelqu'un qui écrit que le roi d'Angleterre fête le jour de Noël le 27 décembre et des choses comme ça. Et voilà.
Alors justement, dans votre ouvrage, l'imbécilité est une chose sérieuse. Vous prenez à témoin parfois la biographie des philosophes contre leur pensée et vous semblez un peu même régler vos comptes avec certains philosophes. Alors on va entendre un texte que vous citez, un texte de Thomas Bernhard, tiré de Maîtres anciens. On a Reger, un vieux critique musical, qui est assis au musée à Vienne et il discute avec Atzbacher, le narrateur, des grands maîtres de la pensée allemande. Et à un moment dans leur discussion, eh bien c'est au tour d'Heidegger d'être décrit, critiqué, moqué par ses personnages. Écoutez ce texte interprété par Anne Brissier.
Heidegger, je ne peux pas le voir autrement qu'assis sur le banc devant sa maison de la forêt noire, à côté de sa femme, qui toute sa vie l'a complètement dominée, et qui lui a confectionné tous ses mi-bas au tricot et tous ses bonnets au crochet, et qui lui a cuit son pain et tissé ses draps, et qui lui a même fabriqué ses sandales. Heidegger était une tête kitsch, dit Reger. C'était un homme tout à fait dépourvu d'esprit. Dénué de toute imagination, dénué de toute sensibilité. Un ruminant philosophique foncièrement allemand. Une vache philosophique continuellement pleine qui paissait sur la philosophie allemande et qui pendant des décennies a lâché sur elle ses bouses coquettes dans la forêt noire. J'ai vu une série de Heidegger qui a toujours l'air d'un officier d'état-major bedonnant, à la retraite. Sur ses photographies, Heidegger dort, il s'éveille, il met son caleçon, il enfile ses mi-bas. il boit une gorgée de vin nouveau. Il sort de son blocos et contemple l'horizon. Il taille son bâton. Il met son bonnet. Il ôte son bonnet. Il tient son bonnet dans ses mains. Il écarte les jambes. Il lève la tête. Il baisse la tête. Il met la main droite dans la main gauche de sa femme. Sa femme met sa main gauche dans sa main droite à lui. Il marche devant la maison. Il marche derrière la maison. Il se dirige vers sa maison. Il s'éloigne de sa maison. Il lit. Il mange. Il trempe sa cuillère dans sa soupe. Il se coupe avec une tranche de pain, cuit par lui-même. Il ouvre un livre, écrit par lui-même. Il ferme un livre, écrit par lui-même. Il se baisse. Il s'étire. Et ainsi de suite. Si déjà les wagnériens ne sont plus supportables, alors que dire des heideggeriens ?
À la différence de la bêtise, dites-vous, Maurizio Ferraris, l'imbécilité est un comportement volontaire. L'ambition fait l'imbécile, dites-vous. Et Heidegger est l'exemple parfait, avec ses idées fixes et ses habitudes renfrognées, son mot surtout et son envie de dominer les autres, le texte que nous allons entendre de Thomas Bernhard, cité par vous donc dans votre livre. Et alors, ironique n'est même pas le terme, méchant sans doute, même au-delà de la méchanceté. Pourquoi est-ce que selon vous, c'est Heidegger qui incarne parfaitement cette imbécilité que vous décrivez ?
Je dirais que, pour les raisons données par Thomas Bernhard, puisque en effet il y a ce kitsch heideggerien qui est très fort et qui est le kitsch de quelqu'un vraiment convaincu de lui-même. Si on lit les correspondances de Heidegger, moi je ne suis pas de ceux qui disent ah comme il était nazi, il ne faut pas le lire, puisque étreintant, c'est un chef-d'œuvre philosophique. Le miracle, le paradoxe, c'est que le même homme qui a écrit Étretat, on peut écrire dans les cahiers noirs que les Juifs se sont autodétruits. Peut-être c'était là le livre écrit par lui-même, ouvrant un cahier noir.
Qui est décrit dans le texte qu'on a entendu.
Oui, exactement. En plus, on pourrait dire, Thomas Bernhard dit qu'il est l'imbécile des Préalpes, le définit dans ce passage, l'imbécile des Préalpes, et en plus, il était particulièrement acharné avec Heidegger, puisqu'il était très ami de Ingeborg Bachmann, et il se demande pourquoi elle a écrit la thèse sur Heidegger. Donc, il était furieux à cause de Ingeborg Bachmann. Mais il faut dire que même Heidegger, lorsqu'il a dû justifier son discours de rectorat et le fait qu'il a été, il a dit « c'était eine Dummheit », c'est-à-dire une imbécilité, une bêtise. Donc,
Vous faites allusion à son discours en tant que recteur quand il est resté en place alors que le nazisme a pris le pouvoir.
Oui, non, il est devenu recteur après que le nazisme
a pris
le pouvoir.
C'est après coup.
Donc,
et il a fait un discours justifiant cette position.
Oui.
Donc, mais ça, c'est ce que Bernhard reproche à Heidegger. Mais vous, Maurizio Ferraris, son imbécilité, elle vient d'où chez Heidegger ?
Alors, je crois que c'est vraiment, disons, ce manque de subtilité, ce manque de sensibilité humaine qui est très fort. Par exemple, j'étais impressionné en lisant une lettre qu'il a écrite à sa femme en mars 1945. Il faut savoir que sa maison à Freiburg avait été bombardée par les Alliés. Ses fils étaient tous les deux prisonniers des Russes. Sa femme restait à Freiburg pour éviter que les gens dépouillaient la maison. Il était allé à Metzkirch pour s'occuper de la seule chose qui les intéressait, c'est-à-dire sauver ses manuscrits, éviter que le manuscrit était pris par les Russes, comme si les Russes étaient intéressés au manuscrit de Heidegger. Et il dit, quand même, âme dilecte, il se référait à la femme en disant mon âme dilecte, je vois que bien que notre patrie est en train de vivre un moment sombre, j'ai des intuitions philosophiques que sont dignes de Platon. Alors, cet énorme qui, à l'époque, avait 56 ans, ce n'était pas un adolescent, et avait Et tout ce titanisme.
Au fond, ici, imbécile est synonyme de ridicule pour vous.
Oui, mais tu t'adresses à quelqu'un qui, en lisant, ne pourra que dire mais alors, il est imbécile. Oui, c'est là le type de reproche. Par exemple, ce type et là, je trouve Derrida, qui a travaillé beaucoup avec Heidegger, a reconnu très bien ce type de disons de faiblesse ou d'imbécilité, puisque par exemple, tous ces albums de photos qui est commenté par Thomas Bernhard dans ce passage, a été l'objet d'un séminaire de Heidegger, très beau, et je me souviens d'un séminaire de Derrida sur Heidegger, la main de Heidegger, très beau, et là aussi, Heidegger faisait des observations, disons, en privé, Derrida, que serait digne de Thomas Bernhard. Je me souviens, parce que, par exemple, il y a un passage où Heidegger dit que le singe n'a pas de main. Et le singe ne meurt pas, décède. Seulement l'homme a une main et l'homme décède. Et Derrida dit, mais où est-ce qu'il a vu un singe? Dans le forêt noire. Où exactement?
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Eh oui, le temps ne fait rien à l'affaire, ça c'est Brassens qui en est persuadé, mais pour vous, Maurizio Ferraris, l'imbécilité est une chose sérieuse. En tout cas, vous lui avez consacré un ouvrage disponible au PUF. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con.
Un dernier mot, Maurizio Ferraris, que vous vouliez ajouter?
Bon, j'ai l'impression que je pourrais écrire un goodbye con maintenant.
Non, pas goodbye con, mais oui. Goodbye con. C'est noté, on va transmettre à votre éditeur.
Dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Sur France Culture, il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Et bien comme tous les vendredis, je m'intéresse à l'actualité. Et vous connaissez bien sûr cette fameuse formulation que l'on entend partout, de quoi tel événement, telle chose, tel phénomène est-il le nom? Eh bien j'ai voulu me poser la question à propos du nom, de quoi les noms sont-ils donc le nom? Car peut-être l'avez-vous remarqué, la politique ces derniers temps est beaucoup traversée par des enjeux de nom.
Nous avons décidé de travailler ensemble à la construction donc d'une nouvelle force parlementaire à travers la constitution d'un groupe parlementaire qui s'appellerait le groupe Les Républicains Constructifs, UDI et Indépendants.
Libre, c'est un mouvement que je souhaite fonder avec vous. Un mouvement pour reconstruire la ligne politique de la droite et du centre. Une droite authentique, une droite qui soit ferme sur le régalien, qui soit en même temps sociale et humaine.
Il est temps que le politique... C'est ça le message des populaires, que le politique retrouve sa primauté sur l'économique, sur le technocratique. Ce n'est pas aux financiers, ce ne sont pas aux rentiers, ce ne sont pas aux traders de diriger le monde.
Thierry Solaire qui annonce la création du groupe Les Constructifs, Valérie Pécresse et son mouvement Libre, ou encore Guillaume Pelletier et le sien, nommé pour sa part populaire, voici les trois nouveaux venus dans le monde des mouvements politiques. Et entre Les Constructifs, Les Libres et Les Populaires, on a bien senti que le choix du nom n'était pas anodin, qu'il s'accompagnait dans les trois cas d'une réflexion, d'une définition, d'une présentation, comme si le nom signifiait plus que lui-même, comme s'il devait renvoyer, dès qu'on l'entend, à la nature de ce qu'il désigne. Et c'est bien la question du nom en philosophie. Le nom dit-il quelque chose de l'identité de la chose qu'il désigne, qu'il nomme.
Mais je vais plus loin. Moi, je vais pas me contenter de cela. En juillet, le 1er juillet, je lancerai un mouvement large qui s'adressera aux hommes et aux femmes de gauche, citoyens, pour être en situation de se retrouver, de penser les suites que nous pouvons donner à ce travail que nous avons commencé lors de la campagne présidentielle, travailler sur ces idées nouvelles. C'est un mouvement qui est un mouvement transpartisan, le 1er juillet que je lancerai, et qui se nourrira du travail des intellectuels, de cette innovation citoyenne et démocratique que nous avons mis en œuvre pendant la campagne présidentielle. Je pense qu'il faut que la gauche se régénère, qu'il y ait des lieux dans lesquels elle travaille, elle vive, au-delà des partis politiques.
Voici une démarche inverse aux Républicains, c'est Benoît Hamon. Au moment où il annonce lui aussi qu'il lance son mouvement, c'était en mai dernier sur France Inter, il n'a pour sa part aucun nom à lui donner, mais déjà une idée de ce que sera ce mouvement transpartisan, nouveau, ouvert. Alors maintenant, on le sait, il l'a tout simplement appelé mouvement du 1er juillet, comme si à l'inverse des Républicains, le nom ne disait vraiment rien de son mouvement, de la nature de son mouvement, ni populaire, ni libre, ni constructif, ou alors tout à la fois. Et pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi le nom devrait-il en fait dire quelque chose de plus de ce qu'il désigne, quelque chose de l'identité? Un nom n'est-il pas seulement un nom, un signe qui ne devrait renvoyer qu'à lui-même? Eh bien, c'était la position cruciale tenue dès le XIe siècle par les nominalistes. Et si les noms se suffisaient à eux-mêmes?
Alors on fait quoi? On se met en marche. Car on ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. On ne fera pas la France de demain en restant isolé de ce nouveau monde à la fois inquiétant et plein d'opportunités. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Oui, il est temps de se mettre en marche.
Voilà, c'est le nom de ce mouvement, En Marche, avec donc un site internet qui commence dès ce soir. Ce sera un nouveau mouvement politique, je ne sais pas si ça va réussir.
À écouter tous ces hommes politiques, et le premier à avoir lancé cette mode des mouvements en politique, Emmanuel Macron, avec son mot En Marche qui signifie le changement, les fluctuations, le mouvement justement, on est donc bien obligé de questionner ces noms, le nom. Ne sont-ils que des étiquettes sans réalité fixe? Et d'ailleurs, est-ce si grave? Plus récemment que les nominalistes, le philosophe Vincent Descombes, dans Les embarras de l'identité, soulignait cette logique du nom propre. Ne pas décrire l'identité d'une chose ou d'une personne, mais seulement l'identifier. Nommer un mouvement politique pour l'identifier, certes, mais de là à en dire quelque chose, à dire ce qu'il est et surtout ce qu'il fera, eh bien il y a un monde. Et je rappelle que le livre de Vincent Descombes, Les embarras de l'identité, est paru chez Gallimard.
Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Pauline Vermeren, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui a réalisé cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une enquête philosophique très spéciale. Si vous savez que Socrate a bu la ciguë sur ordre de la cité athénienne qu'il avait condamnée à mort, savez-vous ce qu'on lui reprochait? Et qui l'avait vraiment condamné? Et de quoi sa mort était vraiment la défaite? Qui a tué Socrate? C'est la question que nous poserons la semaine prochaine. Nous mènerons l'enquête en vous racontant l'histoire d'un procès hors norme. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires, et sur le site internet des Chemins de la Philosophie, où vous trouverez toutes les informations musicales et bibliographiques concernant l'émission du jour. Vous pourrez également la réécouter ou la télécharger, c'est-à-dire la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous lundi à 10h donc pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.